Alors, dans la suite d'hier, j'avais prévu ce matin de parler du blé, de la vigne, et puis peut-être du Christ comme fruit. Peut-être que c'est lui le fruit unique. Tout d'abord, la question du grain de blé. Alors, il y a de nombreuses métaphores agricoles choisies par Jésus pour parler de la vie qu'il transmet sans rien en retenir. Et la plus parlante, on la connaît bien, c'est celle du grain de blé qui doit mourir en terre pour porter du fruit. En tout cas, pour que le fruit donne un arbre, il faut qu'il tombe en terre lui aussi et qu'il meure. Pour que la pomme donne un pommier, il faut que la pomme tombe et que la pomme pourrisse et que les graines donnent un pommier. Et Jésus va beaucoup utiliser ces images de fruits qui doivent tomber en terre avant de monter à Jérusalem, ou bien juste après, par exemple chez Saint Jean, juste après l'arrivée dans Jérusalem, montée sur un ânon. Et alors si on prend l'évangile de Jean, c'est au chapitre 12. Donc pour avoir une petite idée, pour ceux qui sont moins familiers, le cœur de l'évangile de Jean, ce sont les chapitres 13 à 17. 13, c'est la scène avec le lavement des pieds. 14, 15, 16, c'est un grand discours de Jésus sur sa passion et sur sa vie. Et 17, c'est la prière de Jésus à son Père. Et ça fait comme une sorte de micro-évangile au cœur de l'évangile. Et donc juste avant, au chapitre 12, on a... Alors au chapitre 11, on va le lire cette année, il y a Lazare qui sort de son tombeau. Et au chapitre 12... on a l'onction à Béthanie, Marie qui va oindre Jésus à Béthanie, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, et voilà qu'il va à ce moment-là parler du fruit après tout cela. Il va dire, on est au chapitre 12, versets 23 et suivants, « Voici venue l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. » Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie, alors c'était le mot psyché hier dont je parlais, la paire qui est haïté, achaïté, sa vie psyché en ce monde, la conservera en vie zoé éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Alors c'est intéressant de voir qu'au bout du compte, conserver la vie en vie éternelle, zoé, eh bien il faut pour cela perdre sa vie psyché. Alors en gros, hier, ce que je disais, c'était pour moi bien poser la question de la fécondité, c'est essayer de réfléchir à ce que ça voulait dire que fructifier. Parce que dans la Genèse, on nous dit fructifier et multiplier. Et donc peut-être que ça veut dire que fructifier n'est pas multiplier. Peut-être que ça veut dire que c'est autre chose, fructifier. Et du coup, j'ai essayé de donner quelques slogans sur la caractéristique de la fructification. Donc, un, fructifier n'est pas multiplier, c'est autre chose. Deux, et par exemple, quand on s'attarde à des communautés parce qu'elles seraient nombreuses, ce serait un signe que c'est un fruit de l'esprit, ça ne va pas de soi. Ensuite, j'avais dit que le fruit n'est pas extérieur, mais d'abord intérieur. Et la tentation dans la Genèse du serpent, c'est de faire croire à Adam et Ève que le fruit est extérieur et qu'on peut l'accaparer en mettant la main dessus. La troisième chose que je disais, c'est que le fruit n'est pas à saisir, mais à recevoir. Et donc c'est un peu dans le prolongement de cela. Parce que Jésus lui-même n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais qu'il s'est dépouillé prenant la condition de serviteur. Et donc là encore, il y a une attitude intérieure qui est sans doute que la manière dont nous avons à être, comment dire, reconnaissant pour les fruits qu'il pourrait y avoir dans nos vies, il ne s'agit en aucun cas de mettre la main dessus pour en faire une sorte de chose. Et enfin, le quatrième temps, et c'est là où on parlait de Zoé et Psyché, il s'agit de déposer sa vie pour recevoir la vie. Et un truc qui m'a éveillée à cela, c'est un livre de François Julien, qui est philosophe, qui est peut-être un des plus grands philosophes contemporains. François Julien, pour le situer, c'est un homme qui a passé son temps à étudier la Chine, qui a vécu en Chine, et qui a essayé de conceptualiser comment la pensée chinoise et la pensée européenne étaient hétérogènes l'une à l'autre et pouvaient se nourrir l'une de l'autre pour mieux approcher des concepts qui, pour nous, sont difficiles. Et notamment, il va recréer, et je vais en reparler tout à l'heure, il va élaborer un certain nombre de concepts, et notamment un dont je parlais un tout petit peu hier, que je vais reprendre, qui est la décoïncidence. Et du coup, il a relu, dans un magnifique petit livre qui s'appelle « Ressources du christianisme », il a relu l'évangile de Jean, et il a essayé de montrer, à partir du texte grec, qu'on n'avait pas forcément accès en français à des subtiles nuances. L'une d'entre elles étant la différence entre la vie zoé, la vie vivante en fait, la vie, le souffle vite, enfin comment dire, la vie dans son jaillissement exactement, zoé, et psyché, qui est plutôt traduit par, comment expliquer ça? La vie psyché, c'est la vie animée, c'est le fait que nous soyons animés de la vie, habité par un souffle vital, qui reprend l'hébreu nefesh. Et du coup, il essaye de montrer comment zoé et psyché ne sont pas exactement la même chose. Et donc, par exemple, dans l'évangile de Jean, en lui, le Christ, était la vie zoé, et la vie était la lumière des hommes. Les signes que Jésus a fait tout à fait à la fin de l'évangile ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie, zoé, en son nom. Et notamment au chapitre 10 de l'évangile de Jean, « Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie, zoé, et qu'on l'ait en abondance. Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie, psyché, pour ses brebis. » Donc, on voit bien comment, pour que la vie zoé grandisse, il faut parfois perdre sa vie, psyché. Et je terminais par ce qu'écrivait François Julien, toujours dans « Ressources du christianisme ». Il s'agit de passer de l'être en vie des êtres à ce qui les rend réellement vivants. Et peut-être que la vie spirituelle, c'est ce mouvement qui, en déposant notre vie psyché, donne à d'autres la vie zoé. Et c'est le même mouvement, en fait. Et je prenais l'exemple, par exemple, enfin, ça peut être ça ou tout à fait autre chose, mais de jeunes parents qui vont donner de leur vie pour leur enfant tout petit, parce qu'ils savent très bien qu'il n'y a pas le choix, il faut qu'ils donnent de leur temps, de leur énergie, de leur nuit, pour que l'autre vive, et c'est en même temps leur joie. C'est-à-dire qu'ils y trouvent un surcroît de vie. C'est-à-dire que dans le don, dans le geste de déposer sa vie pour d'autres, on trouve un surcroît de vie. Et ce que disait François Julien, c'était que c'est en décoïncidant d'elle-même que se promeut la vie. Je dépose ma vie, c'est-à-dire que je décoïncide de mon être en vie, adapté qu'il ait en sa vie comme en son monde, pour pouvoir porter plus loin, plus amplement, ma capacité de vie. Déposer n'est pas seulement renoncer à sa vie ou la sacrifier, mais plus essentiellement décoïncider de ce qui, par normalité, se sédimente ou se réifie de ma vie et qui la perd. Donc, c'est un peu un langage philosophique compliqué, mais grosso modo, l'idée de nourrir sa vie... Alors, je vais prendre un autre exemple pour illustrer tout cela. La mode aujourd'hui dans le développement personnel, c'est de dire bah, plus vous allez vous occuper de vous, et puis plus vous serez en capacité de vous occuper des autres. Il se pourrait que l'évangile ce soit le contraire, et que plus on essaie de s'occuper des autres, plus on sera en capacité d'avoir en soi la vie. Mais que le premier mouvement, c'est sans doute pas de s'occuper de soi, mais de s'occuper des autres. Quelque chose comme ça. C'est un peu caricatural, hein, parce qu'il y a aussi des moments où il faut quand même qu'on s'occupe un peu de nous. Mais grosso modo, moi je vois que c'est très vrai pour moi. Le fait d'avoir travaillé en prison, m'oblige à m'occuper de gens qui sont quand même dans des situations largement pires que la mienne, et donc du coup à relativiser l'engueulade avec la sœur du matin sur la place du lait dans le frigo. Voilà, par exemple. C'est un exemple ancien mais vécu. Voilà. Donc pardonnez-moi si j'avais pas fait le résumé des épisodes précédents. Maintenant nous y sommes. Donc, Jésus, dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, dit bien cela, « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie, psyché, la perd. Qui est sa vie, psyché, en ce monde, la conservera en vie, zoé, éternelle. » Voilà. Et donc, ce que François Julien appelle la décoïncidence, donc c'était pas mal qu'on fasse le petit rappel, effectivement, est ici à l'œuvre. Alors, dans la grande tradition chrétienne, on pourrait parler de détachement. Et le détachement, ce n'est pas une transposition de la philosophie stoïcienne. Vous savez que les stoïciens, ils disaient qu'il ne faut pas souffrir. Ils appelaient ça l'apatheia. Mais je crois que ce n'est pas la même chose, le détachement. Il n'y a de détachement chrétien que parce qu'il y a un plus grand attachement. Il n'y a pas de détachement en soi. Il y a attachement au Christ, attachement aux autres, et c'est parce qu'il y a attachement aux autres ou à l'autre qu'il y a détachement. Et tout ce qu'on disait hier, on parlait aussi de régner sur sa vie. Je pense que régner sur sa vie, c'est précisément ce mouvement-là qui est d'être attaché aux autres et à Dieu. Alors il y a un autre texte que j'avais préparé qui est dans l'évangile de Marc, qui est un petit peu équivalent et qui pourra nous aider à mieux comprendre ce que ce serait que fructifier. Donc c'est au chapitre 4 de l'évangile de Marc, versets 26 à 29. Jésus disait « Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui aurait jeté du grain en terre, qu'il dorme ou qu'il se lève, nuit et jour, la semence germe et pousse, il ne sait comment. D'elle-même, la terre porte du fruit, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis plein de blé dans l'épi. Et quand le fruit se livre, aussitôt on y met la faucille parce que la moisson est à point. » Alors ça, je trouve ça aussi très juste sur la notion de détachement ou de décoïncidence. C'est qu'à un moment donné, le fruit, eh bien, il faut le laisser mûrir tranquille, quoi. Il faut le laisser pousser tout seul. Et même si on dort, moi ça me rassure beaucoup ça, même si on dort, eh bien le fruit, la semence, continue de grandir. Voilà. Et l'avènement, la maturité du fruit, n'apparaît comme événement qu'à la suite d'un long processus de nourrissage, d'hydratation, de maturation du grain. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'on traduit souvent « quand le fruit est prêt, on met la faucille », mais en fait c'est quand le fruit se livre, paradidomi en grec, comme de la même manière que le Christ se livre. Et du coup, il me semble qu'on peut tirer un fil pour Jésus. Jésus n'est pas un fruit livré, c'est un fruit qui se livre. Et ça rejoint notre discussion d'hier après-midi sur le fait que, moi je disais par exemple que je suis très un peu agacée par toutes les pseudo-mystiques du lâcher prise. Et que peut-être à un moment donné, donner sa vie, c'est une décision. Enfin, c'est un mouvement de la volonté qui se travaille, qui... voilà, on n'est pas non plus des moules sur un rocher, quoi. Et précisément, Paul, dans l'Épître aux Galates, va reprendre le même verbe, paradidomi, pour dire, en parlant du Christ, « Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré pour moi. » Voilà, « s'est livré pour moi », c'est le même mouvement que le blé qui se livre. Je trouve que ça nous donne une indication sur porter du fruit à la fois. Il faut laisser le fruit grandir et dormir, et en même temps, à un moment donné, le fruit se livre. Alors la parabole des talents se trouve dans la même atmosphère. Il s'agit de faire fructifier le don reçu et non pas de l'enterrer. Et vous avez sans doute ce texte en mémoire. Il y a un serviteur qui a reçu 5 talents, qui en a gagné 5 autres. Il y a un autre serviteur qui a reçu 2 talents, qui en a gagné 2 autres. Et puis il y en a un qui a paniqué, qui a reçu un talent, qui l'a foutu dans la terre bien profond. « Je suis allé enfouir ton talent dans la terre, le voici, je te le rends. » Et lui va se faire un petit peu secouer en disant « c'était pas ça que je t'ai demandé. Je t'ai pas demandé de cacher ton talent dans la terre, je t'ai demandé de le faire fructifier, c'est un peu différent. » Donc si vous prenez l'évangile de Matthieu 25, au chapitre, au verset 20 et suivant, c'est des textes assez terribles, hein, faut les regarder un peu pour de vrai. Alors bon, les deux premiers se font féliciter, et voilà le troisième. « Seigneur, j'ai appris à te connaître pour un homme âpre au gain. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu ramasses où tu n'as pas répandu. Aussi pris de peur, je suis allé enfouir ton talent dans la terre, le voici, tu as ton bien. » Alors le maître lui répondit, « Serviteur mauvais et paresseux, Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je ramasse où je n'ai rien répandu. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais recouvré mon bien avec un intérêt. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10, car à tout homme qui a, l'on donnera, il aura du surplus, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera ce qu'il a. Et ce propre à rien de serviteur, jetez-le dehors dans les ténèbres, là seront les pleurs et les grincements de dents. Ambiance. Parce que ce serviteur, quand on regarde bien, il est présomptueux, il dit un truc que les autres ne disent pas, ils disent « Seigneur, j'ai appris à te connaître, je te connais ». Et quand on commence à dire à Jésus qu'on le connaît, ça ne se passe pas très bien. Parce qu'en fait, c'est une manière de mettre la main sur l'autre, de dire « moi, je te connais par cœur ». Elle, je la connais, elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. La sœur de ma communauté, elle, on ne peut rien lui demander parce que je sais bien qu'elle ne pourra pas faire ce qu'on lui demande, etc., etc. Donc je te connais, dans l'Évangile et dans la Bible en général, connaître c'est aimer. Donc quand on commence à dire qu'on connaît sans aimer, ça ne se passe pas bien. Il est présomptueux, je te connais. Il est accusateur de son maître. Tu es un homme âpre au gain et qui amasse. L'accusation, c'est jamais génial non plus. Et en plus, il a peur, et ça va souvent ensemble, ces trois choses. Et son geste n'est pas de semer, mais d'ensevelir. Donc en fait, c'est un homme qui est, qui est au service de la mort. Point. Alors que son maître avait livré son bien entre ses mains. Donc du coup, cacher le talent en terre, c'est d'une certaine manière le faire coïncider avec la terre. C'est le contraire du détachement. Ce n'est pas le livrer et le donner, mais c'est le faire coïncider avec la terre, comme ça. Voilà. Du coup, je trouve que ça montre bien comment la décoïncidence, ou le détachement, comme vous voulez, est au service de la vie. Alors, si on avait du temps, mais je ne suis pas sûre que ce ne soit pas un peu long cette affaire, on pourrait aborder la parabole que je vous ai donnée à lire sur le grain qui tombe en terre, mais je vais peut-être passer par-dessus ça. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, le grain et la parole ont quelque chose à voir. Par exemple, si vous prenez cette fameuse parabole du semeur, que je vous avais donnée éventuellement à lire hier, c'est la parole qui est semée. Et on voit bien que si la parole est semée, la chute, je reviens un petit peu en arrière, la chute difficile de l'évangile qu'on vient de lire, là sur le serviteur qui enfouit son talent, qui est foutu dehors et tout ça, et puis le fait qu'on donne à celui qui a déjà, nous ça peut choquer nos oreilles, mais c'est qu'en fait, l'amour se multiplie. Et qui donne de l'amour nécessairement reçoit de l'amour, alors celui qui enterre l'amour ne peut pas en recevoir. Je crois que c'est dans cet esprit-là qu'il faut lire ce texte. La parole, c'est pareil. Si je donne la parole à l'autre, eh bien la parole se multiplie. Si j'enterre la parole, il y a un certain mutisme qui est de l'ordre de la mort. Et tous ceux qui vont, toutes les forces ou les puissances qui vont empêcher la parole de porter du fruit, quand on regarde les paraboles du semeur, eh bien il y a le mauvais, qu'on appelle Ponéros chez Matthieu, l'accusateur, vous savez que le Satan en hébreu, ça veut dire l'accusateur, et le diviseur, le diabolos, ce sont ceux qui vont s'emparer de la parole, mettre la main sur la parole, pour qu'elle ne puisse pas porter du fruit. Et ça rejoint ce que j'essayais de dire, je crois, un petit peu hier, la question de la parole de vérité, la parésia, et là pour le coup l'actualité nous rattrape, la parole de vérité, elle sait quel prix il lui faut payer, elle sait qu'elle peut faire saigner et pleurer, et pour autant, elle permet de vivre. La parésia, c'est la faculté de dire les choses, notamment lorsque les vents sont contraires, c'est affronter l'épreuve sans la fuir. Donc on retrouve cela par exemple au livre de la Sagesse, chapitre 5, verset 1. Le juste se tiendra debout plein d'assurance. L'assurance, c'est cette parésia. La parésia, c'est la qualité de parole de l'homme libre qui se tient debout devant les autres. C'est la qualité de la parole qui permet la correction fraternelle sans blesser l'autre. Et finalement, elle n'existe que lorsque celui qui parle aime ses interlocuteurs. Donc c'était le blé. Ensuite, le deuxième fruit de la terre par excellence, c'est le raisin et la vigne. Et vous voyez que le blé doit mourir, pourrir en terre pour donner du fruit. Le blé doit être réduit en poussière pour donner de la farine. Donc il doit être aussi moulu. Et vous avez peut-être en tête le chapiteau de Vézelay qui s'appelle le moulin mystique, où il y a en fait une sorte de moulin qui a la forme du Christ, avec une croix au milieu du moulin, et qui va montrer que c'est la parole broyée qui permettra de faire le pain dont nous serons nourris. Eh bien la vigne, c'est pareil, il faut que les grains soient broyés pour que du vin puisse être offert aux commensaux. Et de même, l'huile, l'olive doit être broyée pour donner de l'huile. C'est mystérieux cette histoire quand même. Alors la vigne, elle a une place à part. Et peut-être vous vous souvenez, on le lit lors de la Semaine Sainte, le texte d'Isaïe, le chant du bien-aimé à sa vigne, dont je vais vous reprendre un extrait. C'est au chapitre 5 d'Isaïe. Versets 1 à 7. Que je chante à mon bien-aimé le chant de mon ami pour sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il la bêcha, l'épierra, il y planta du raisin vermeil. Au milieu, il bâtit une tour. Il y creusa même un pressoir. Il attendait de beaux raisins. Elle donna des raisins sauvages. Et maintenant, habitants de Jérusalem et gens de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Que pouvais-je encore faire pour ma vigne que je n'ai fait? Pourquoi espérais-je avoir de beaux raisins et a-t-elle donné des raisins sauvages? Et maintenant que je vous apprenne ce que je vais faire à ma vigne, en ôter la haie pour qu'on vienne la brouter, en briser la clôture pour qu'on la piétine, j'en ferai un maquis. Elle ne sera ni taillée ni sarclée. Ronces et épines y croîtront. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. Eh bien, la vigne du Seigneur, c'est la maison d'Israël, et l'homme de Juda, c'est son plan de choix. Il attendait le droit, et voici l'iniquité, la justice, et voici les cris. Alors, il faudrait relire tous ces textes des prophètes sur la déception de Dieu devant son peuple ou devant sa vigne, et en même temps, toujours à un moment donné, une forme d'espérance sur le fait que même si le peuple abandonne son Dieu, Dieu n'abandonne pas son peuple. Et là, au milieu de la vigne, il y a une tour. Au milieu, il bâtit une tour. Et la tour indique que quelqu'un veille, y compris quand la vigne est dévastée. Bien souvent, dans la symbolique biblique, la vigne représente en général l'épouse et par extension le peuple. Mais lorsque le péché de la vigne, bien souvent, en tout cas, qui est comme un miroir du péché du peuple, c'est le péché d'arrogance. La vigne s'est complue de ses fruits. Elle s'est crue la source de sa propre fécondité. Et donc elle s'est endurcie. Il y a un passage assez terrible. Babylone s'est infatuée de sa beauté et le prophète, en montrant Babylone, dit son péché, en fait, c'est de dire « moi, rien que moi ». Et en fait, elle dit « je suis belle, je suis merveilleuse, je suis puissante, je suis forte, moi, rien que moi ». Et donc, elle a évacué toute altérité, elle a évacué tout rapport à Dieu. Et en fait, vous pourrez lire aussi, je ne l'ai pas préparé là, mais vous pourrez lire, au chapitre 16 de chez Ézéchiel, il y a tout le chant de Dieu à Jérusalem qui lui dit la même chose, qui lui dit « Tu étais un pauvre embryon presque mort sur le bord du ruisseau, je t'ai pris, je t'ai habillé, je t'ai lavé, je t'ai nourri, tu as grandi, tu es devenue belle, je t'ai oint d'une huile ». Et tu es devenue merveilleusement belle et tu t'es infatuée de ta beauté. Et du coup, Tu es allé sur les hauteurs, donc il faut entendre sur les lieux de sacrifice, pour sacrifier aux idoles, et tu as même sacrifié tes enfants. Et donc, tu vas... la punition, c'est que nous allons voir ta nudité, nous allons voir que tu es nu. Et la fin du texte, c'est « Mais moi, je ne t'abandonnerai pas, mais tu seras réduite au silence. » Et je trouve que, dans l'atmosphère dans laquelle nous sommes dans l'Église aujourd'hui, il y a quelque chose à entendre de ce texte-là. C'est-à-dire, quand nous continuons de donner des leçons de morale, pensons dans une position de surplomb, en considérant que nous avons un savoir qui nous permet cette position, je pense qu'on n'est pas très loin de la position de Jérusalem qui s'auto-congratule elle-même. Et c'est un peu ce que décrit ici Isaïe dans cette vigne. La vigne a cru qu'elle était la propre source de sa fécondité. Mais au contraire, quand le peuple humilié reconnaît sa faute et à nouveau se tourne vers son Seigneur, tout redevient possible. Et la suite du texte d'Isaïe, nous sommes cette fois au chapitre 27. « Ce jour-là, chantez la vigne délicieuse, moi le Seigneur, j'en suis le gardien, à intervalles réguliers, je l'arrose, je la garde nuit et jour. Je ne suis plus en colère. Si je trouve des épines et des ronces, je donnerai l'assaut et en même temps, j'y mettrai le feu. Mais celui qui me prendra pour rempart, avec moi, fera la paix. Il fera la paix avec moi. » Dans les temps à venir, Jacob poussera des racines, Israël fleurira et donnera des bourgeons, il remplira le monde de ses fruits. Donc toujours, il y a à la fois cette mise en garde extrêmement sérieuse de si nous pensons être à la racine des propres fruits, eh bien on va dans le mur. C'est pour ça qu'il ne faut pas se préoccuper de ses propres fruits, il faut s'occuper des fruits des autres. Bon. Mais à partir du moment où on s'occupe justement des autres et on cesse d'être centré sur ses propres fruits, la promesse redevient possible, la vie à nouveau circule. Et on retrouve cette atmosphère de promesse à la fin du livre d'Isaïe, au chapitre 65, qui a une tonalité qu'on retrouve dans l'Apocalypse. « Voici que je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé, il ne reviendra plus à l'esprit. Soyez pleins d'allégresse et exultez éternellement de ce que moi je vais créer, car voici... Je vais faire de Jérusalem une exultation et de mon peuple une allégresse. J'exulterai en Jérusalem, en mon peuple je serai plein d'allégresse. Et l'on n'y entendra plus retentir les pleurs et les cris. Ils bâtiront des maisons, ils les habiteront, ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. » Alors il y a un dernier texte dont je voudrais vous parler concernant la vigne. Un tout petit texte. Qui est assez génial, qui est que le prophète Jérémie, alors qu'il est exilé en terre étrangère, ça se passe quand même assez mal pour lui, hein, on a voulu l'assassiner, le noyer dans une citerne, etc. etc. Bien. Donc il est en plein exil, il sait que lui ne reviendra pas de l'exil, mais il pose un geste prophétique qui consiste à acheter un champ en terre promise, parce qu'il dit « il y en a qui reviendront ». Et donc l'espérance, à mon sens, c'est quelque chose comme ça. C'est préparer le terrain pour ceux qui vont nous suivre. Peut-être que nous ne quitterons pas l'exil. Peut-être que l'Église, telle que nous la connaissons aujourd'hui, va continuer à aller très mal. Peut-être que ce seront des générations suivantes qui retourneront en terre promise. Pour autant, notre travail, c'est de préparer, d'acheter un champ en terre promise pour que d'autres puissent y séjourner. Et si vous prenez ce texte, c'est assez génial, c'est au chapitre 32, puis 38, enfin voilà, c'est autour du chapitre 32 de Jérémie. C'est complètement insensé, hein. Lui sait qu'il ne reviendra pas d'exil, que la terre est perdue. En même temps, il prononce des prophéties de malheur. Et donc s'il prononce des prophéties de malheur, c'est pas du tout parce qu'il serait déprimé, mais parce qu'il veut que le peuple se réveille, et que la prophétie ne soit pas vérifiée. Le prophète qui pose des prophéties de malheur, il espère bien qu'il va avoir tort. Et il croit à un avenir possible pour son peuple, et il y croit à l'heure où il n'y a pas de raison de croire. Et la foi, je crois que c'est vraiment ça, c'est croire quand il n'y a pas de raison de croire. Jérusalem est détruite, Jérémie lui-même, plusieurs chapitres plus loin, va être enfermé dans une citerne, et il ne devra son salut, ça c'est magnifique, qu'à un étranger, un personnage ultra épisodique, qui apparaît dans un verset, qui est un Éthiopien, qui s'appelle Ebed-Melech, qui dit « mais c'est pas possible de laisser ce prophète dans cette citerne », et qui va avertir le roi pour qu'on sorte Jérémie de la citerne. Voilà. Donc le type, il apparaît nulle part ailleurs, on ne sait pas qui c'est, il a quand même un nom, mais c'est lui qui va aller dire au roi qu'il faut sortir Jérémie de la citerne. Et Jérémie ne se dérobe pas, et donc il pose ce geste hors du commun, il achète un champ, il met l'acte d'acquisition dans un vase de terre pour qu'il se conserve longtemps, car, dit-il, ainsi parle le Seigneur, on achètera encore des maisons, des champs et des vignes en ce pays. Moi, j'ai découvert ce texte à travers les écrits d'Dietrich Bonhoeffer, qui est lui-même un peu dans la même situation que Jérémie. Il est enfermé dans les prisons d'Allemagne après avoir fomenté plus ou moins un coup d'État contre Hitler. Il commence à comprendre qu'il n'en sortira pas vivant. Il écrit à son ami des lettres de prison, dans Résistance et soumission, et il dit notamment, voilà, moi, l'attitude dans laquelle je suis, c'est d'être dans l'attitude de Jérémie qui achète un champ, parce qu'on reviendra de l'exil un jour. Alors, sur la vigne, je vous laisserai lire ce texte que vous connaissez, en écho au motif d'Isaïe 5, il y a dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, les vignerons qui vont tuer le fils du propriétaire de la vigne. Non seulement ils vont se débarrasser des messagers du propriétaire, et le propriétaire en dernier recours se dit « je veux récupérer les fruits de ma vigne, donc je vais envoyer mon fils, puisque visiblement les serviteurs ça suffit pas », et les mauvais vignerons vont faire périr le fils lui-même. En dernier ressort sur la vigne, je voudrais qu'on revienne sur le texte que nous avons lu ensemble à la prière tout à l'heure de Jean 15. C'est pas tout à fait celui qu'on a lu, c'était un petit peu avant, mais c'est pas grave. Sur la vigne. Je suis la vigne véritable et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, pour qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs, grâce à la parole que je vous ai fait entendre. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas en la vigne, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis la vigne, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte du fruit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se dessèche. On les ramasse et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'aurez. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et deveniez mes disciples. La petite conjonction « en moi », elle est répétée 10 fois dans ces 9 versets. Donc, Il y a tout un jeu sur le dedans et le dehors. Le véritable dehors, c'est celui où nous sommes sans le Christ. Partout où nous sommes avec le Christ, nous sommes dedans. Et y compris dès qu'on est 2 ou 3, nous sommes dedans. On parlait hier de ceux qui ne connaissent pas le Christ. Bon. Il me semble que une certaine manière d'être ajustée qui favorise la vie des autres, c'est d'une certaine manière être dans le Christ. Je voulais vous lire, en écho de cela, un très beau texte de Michel de Certeau, jésuite, historien remarquable, qui a travaillé l'expression « pas sans toi ».« Pas sans ». Et voilà ce qu'il dit. « Dieu ne peut pas vivre sans nous ». Cela veut dire aussi que Jésus ne peut pas vivre sans ceux qui le suivront et qui l'ignorent encore. Cela veut dire encore que chacun de nous ne peut pas vivre sans ce que nous ignorons, sans un au-delà de nous-mêmes que nous ne connaissons plus ou pas encore, ou que nous ne connaîtrons jamais. Autrement dit, passant désigne une circulation indéfinie. Chaque moment, chaque témoin, chaque élément, comme chaque groupe historique, reçoit une signification dans la mesure où il est inséparable de ce qu'il ne dit pas, de ce qu'il n'est pas, et de ce dont il ne témoigne pas encore. Il ne disparaît pas pour autant, mais il trouve sens dans sa relation avec ce qu'il n'est pas, et fondamentalement avec Dieu. Ce passant, était déjà en quelque sorte posé par Jésus lorsqu'il disait « Je ne suis rien sans mon Père, je ne suis rien sans vous, frères, et sans un avenir que j'ignore. » Une articulation analogue avec les autres et avec Dieu est la façon dont chacun de nous, à sa mesure, s'ouvre à l'infini. Donc il y a quelque chose autour de l'expérience mystique qui est que Dieu toujours nous manque. Le fait de dire « je ne peux pas vivre sans toi », ça signifie en même temps « tu me manques ». Et je pense que c'est pareil dans la vie avec les autres. « Je ne peux pas vivre sans toi », ça veut dire que l'autre me manque et que je ne peux pas mettre la main dessus, parce que ce qui me manque, c'est quelque chose que je ne connais pas, finalement. Et je me rappelle d'une de mes copines qui fêtait ses 50 ans de mariage, qui faisait un pot, et elle nous disait, en parlant de son mari qui est à l'autre bout de la pièce, « Celui-là, je ne sais pas qui c'est, je ne le connais pas. » Je trouve que c'est juste, ça, comme tonalité. C'est le contraire de ce que dit le vigneron, le type qui enfouit son talent dans la terre et qui dit « Moi, je te connais, je sais que tu es un maître sévère, machin. » Dieu, nous ne le connaissons pas. Nous le connaissons par le Christ, nous apercevons comme une silhouette, mais nous ne le connaissons pas, et c'est parce que nous ne le connaissons pas que nous avons envie de le connaître. Et donc oui, il faut lire la suite, pardon, c'est ça que je voulais faire. La suite du chapitre 15 de Jean, qui est précisément celui que là on a lu tout à l'heure. « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure en son amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit en plénitude. Voici quel est mon commandement. Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a plus grand amour que celui-ci. » Déposer sa vie, psyché, donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi pour que vous alliez et portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Vous aurez sans doute remarqué que dans ce texte, il y a une sorte de chiasme, enfin d'implique, comment dire. C'est une structure où, comme un cadre, comme un écrin, et au cœur de l'écrin, entre le commandement « vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé », il y a la joie, comme si le fruit de l'agapé, c'était une joie en plénitude, pour que votre joie soit complète, qui est le cœur du chapitre. Alors c'est intéressant parce que, je vous disais, le cœur de l'évangile de Jean, c'est les chapitres 13 à 17, au milieu il y a le chapitre 15, au milieu du chapitre 15 il y a le commandement de l'amour, et au milieu du commandement de l'amour, il y a la promesse d'une joie en plénitude. Et nous savons bien que la joie élargit nos vies. La joie, c'est quelque chose qui amplifie l'espace. Alors, la troisième partie que j'avais prévue pour ce matin, c'est la croix comme arbre de vie, point d'interrogation. Alors, quand j'étais plus jeune, j'ai eu la chance de bénéficier d'un programme Erasmus, non, jeune sœur, pour aller en Espagne. Et je suis partie 6 mois à Salamanque. Et du coup, j'avais déjà commencé de travailler en prison. Et donc je m'étais dit, bon, il faut quand même que je garde un lien avec la prison pendant que je ne suis pas là, pendant 6 mois, comment faire? Et donc j'étais partie avec une concordance biblique en me disant, je vais chercher où est-ce qu'il y a des prisonniers dans la Bible. Chacun ses loisirs. Hein. Bref, et d'après vous, qui est le premier prisonnier biblique? Petit sondage. Jean-Baptiste. Biblique. Alors Jean-Baptiste, non. Joseph, non. Caïn, non. Adam ?
Non.
Non. Bon, c'est une grosse blague. En fait, c'est l'arbre de vie. Parce que... Ouais, c'est une grosse blague. Si vous regardez à la fin, après la chute d'Adam, l'être humain est renvoyé du jardin d'Éden pour cultiver le sol. Il est chassé du jardin d'Éden et Dieu pose devant le jardin d'Éden des chérubins et la flamme du glaive fulgurant pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc le pauvre arbre de vie, il est enfermé dans l'Éden, gardé par des surveillants qui sont des chérubins armés d'un glaive fulgurant. Or, qui est le dernier prisonnier biblique ? Eh bien, c'est l'arbre de vie qui est libéré dans l'Apocalypse, puisque dans l'Apocalypse, on a une ville, non plus un jardin, mais une ville, dont toutes les portes sont ouvertes, et au milieu de la ville, un arbre de vie qui donne des fruits 12 fois. Chaque mois, il produit son fruit, et les feuilles de cet arbre sont un remède pour les nations. Donc, comme si la Bible racontait l'histoire de la libération de l'arbre de vie. Et du coup, j'avais essayé de faire une petite recherche sur le vocabulaire autour de l'enfermement, donc fermé, ouvert, machin. Et je m'étais rendu compte que dans l'Évangile, c'est assez stupéfiant quand on regarde le champ lexical de la fermeture ou de l'ouverture, le Christ ouvre tout, en fait. Il est plongé dans le Jourdain. Quand il remonte de l'eau, les cieux s'ouvrent. Et voilà que l'Esprit de Dieu descend comme une colombe pour venir sur lui. Il ouvre les yeux des aveugles, il ouvre les bouches des muets, il ouvre les oreilles des sourds, il ouvre même les tombeaux. Et sur la croix, le Christ, dont le corps est percé d'une lance, est un corps ouvert. Et beaucoup d'auteurs médiévaux ont glosé sur le fait que le corps du Christ, avec la plaie de la lance, est un corps ouvert dans lequel nous pouvons nous abriter. Autrement dit, Jésus, il défixe ce qui était fixé, il décoïncide ce qui était figé. Il remet du jeu dans les relations bloquées. La manière la plus franche, c'est précisément la résurrection de Lazare, où il va dire « déliez-le et laissez-le aller ». On voit bien qu'il y a un mouvement, en fait. La vitalité du Christ, elle est partagée, offerte, et elle délie. La parole de Jésus promet l'ouverture des maisons et des cœurs. « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez ». Frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Le bon berger, c'est celui qui ouvre la porte et qui, mieux encore, se fait lui-même porte ouverte pour qu'il soit toujours possible d'aller et de venir. Et à la suite du Christ, dans les Actes des Apôtres, eh bien, il va se passer la même chose. Il va y avoir toujours à 3 reprises, un ange qui vient libérer les apôtres quand ils sont en prison. Ils ne savent pas très bien comment ça se passe, mais ils se retrouvent dehors. De la même manière, Pierre va voir le ciel ouvert. Étienne aussi va voir le ciel ouvert. La foi, elle est comprise comme une ouverture des yeux. Paul, c'est typique. Paul, il est sur son truc de pharisien. Il est dans la rivalité compétitive pour être le plus chouette pharisien du groupe. Et à un moment donné, il va même en être aveuglé. Il va en être tellement aveuglé qu'il tombe de toute sa hauteur. Et là, il va être pendant 3 nuits dans la nuit, comme le Christ à sa passion. Et après, il voit. Après, il comprend qu'il était enfermé, finalement. Et dans le livre de l'Apocalypse, il y a 27 fois « ouvrir ». Alors, à la suite de toute cette petite réflexion sur la Bible, ce serait l'histoire de la libération de l'arbre de vie, je suis allée chercher où est-ce qu'il était, cet arbre de vie. Donc, j'étais chercher en grec le mot « arbre », « xylon », qu'on retrouve de façon pas si fréquente, et qu'on retrouve notamment dans les Actes des Apôtres. « Le Dieu de nos pères a ressuscité ce Jésus que vous aviez fait mourir » en lui suspendant au bois. Et encore chez Pierre, lui qui, sur le bois, a porté lui-même nos fautes dans son corps, afin que, morts à nos fautes, nous vivions par la justice. Et le mot xulon, ça veut dire aussi bien arbre que bois. Et du coup, est-ce que la croix serait, la croix est-elle un arbre de vie dont Jésus serait le fruit? C'est toute la question, en fait, de la métaphore de l'arbre de vie. Ce qui est assez étonnant, c'est que les médiévaux, notamment Jacques de Voragine, qui a écrit La Légende dorée, alors c'est très imagé, c'est très loin de notre monde, en même temps c'est toujours assez intéressant d'aller lire ce qu'il dit. Je vais vous lire un petit extrait de La Légende dorée, le chapitre sur l'exaltation de la Sainte Croix. Il faut observer qu'avant la passion de Jésus-Christ, le bois de la croix fut un bois méprisé, parce que ces croix étaient faites avec du bois de bas prix. Il ne portait point de fruits, tout autant de fois qu'il était planté sur le mont Calvaire. C'était un bois ignoble, parce que c'était l'instrument du supplice des larrons. C'était un bois de ténèbres et sans aucune beauté. C'était un bois de mort, puisque les hommes y étaient attachés pour mourir. C'était un bois infect, parce qu'il était planté au milieu des cadavres. Mais après la passion, il fut exalté de bien des manières, parce qu'au lieu de vil, il devint précieux. Sa stérilité fut convertie en fertilité. Selon le chapitre 7 du Cantique des Cantiques, « Je monterai sur le palmier et j'en recueillerai les fruits. » Son ignominie devint excellence. Ses ténèbres ont été converties en clarté. Les croix et les cicatrices de Jésus-Christ, dit Jean Chrysostome, seront au jugement plus brillantes que les rayons du soleil. La mort est devenue une vie sans fin. Ce qui fait dire à l'Église, la source de la mort devint la source de vie. Son infection fut changée en odeur suave. Pendant que le roi se reposait, est-il dit au Cantique, le nard dont j'étais parfumé, c'est-à-dire la Sainte Croix, a répandu son odeur. Donc, c'est compliqué cette histoire, parce que est-ce qu'on peut dire que le bois de la croix est un arbre de vie dont le Christ est le fruit? Ou bien, est-ce que c'est le Christ lui-même qui est l'arbre de vie? Parce que je ne crois pas qu'on puisse dire que l'instrument de torture qu'est la croix puisse être un arbre de vie. Il me semble que le véritable arbre de vie, c'est le Christ qui confère la vie à tout ce qu'il touche, y compris à l'instrument de torture qu'est la croix. Et que la véritable source de la vie, c'est le Christ. L'arbre de vie, je vais terminer par lui. L'expression « arbre de vie », elle a été employée dans l'Ancien Testament, notamment dans les écrits de sagesse, au livre des Proverbes. Je vais vous donner quelques versets, comme ça. « Le fruit du juste est un arbre de vie. Langue apaisante est un arbre de vie. Espoir différé rend le cœur malade. C'est un arbre de vie que le désir satisfait. » Et là encore, on voit bien comment l'arbre de vie a quelque chose à voir avec la parole. Et il me semble qu'à travers ces petits proverbes, on a déjà comme une sorte de portrait robot de Jésus, qui lui est la parole ajustée par excellence. Enfin, si on retourne dans la Genèse, comme ça la boucle sera bouclée, l'arbre de vie, il est au milieu du jardin. En hébreu, ce terme, au milieu, ça veut dire à la fois entre, à travers, parmi, au milieu. De la même manière, il y a l'ange du Seigneur qui apparaît à Moïse au milieu du buisson. Le Seigneur, lors de la Pâque, au milieu de la nuit, il va passer au milieu de l'Égypte, à travers l'Égypte. Et surtout, il sera dit, lorsque le peuple est libéré de l'esclavage d'Égypte et qu'il rentre en Exode, la promesse de Dieu, c'est de dire à son peuple « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Il y a un parallèle très net entre cette expression en Exode 25, 8. Le peuple va confectionner un sanctuaire pour abriter la parole de Dieu. À partir de ce que chacun amène, vous regarderez ce texte, c'est génial. En fait, Dieu dit à son peuple, bah, « Chacun amène un truc, et avec ce que chacun amène, on va fabriquer le sanctuaire. » Donc il y en a qui ne sont pas très riches, qui vont amener un morceau de tissu, d'autres qui vont amener de l'or, d'autres qui vont amener du bois, d'autres qui vont amener des grandes tentures. Et le sanctuaire sera confectionné à partir de ce que chacun amène et avec la parole de Dieu. Donc c'est une sorte de répétition de l'incarnation qui, finalement, est l'habitation définitive de la parole de Dieu dans la chair des hommes. ce qu'on lit d'ailleurs dans la deuxième lecture aujourd'hui, en fait, que nous sommes un temple. Donc, la promesse de Dieu, elle est en continuité directe avec l'incarnation du Christ quand il dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux ». Ce que je veux dire par là, c'est que si l'arbre de vie est au milieu du jardin, c'est bien dans le milieu de nos vies, dans l'entre-nous, que quelque chose de Dieu est présent. C'est bien dans le milieu de nos relations que la présence réelle de Dieu est la plus manifeste. Et du coup, l'arbre de vie, ce n'est pas d'abord la croix, c'est la présence du Verbe, y compris dans les relations abîmées, entre nous. Ce « au milieu », on le retrouve dans Ézéchiel, par exemple. « Je conclurai avec eux une alliance de paix, ce sera avec eux une alliance éternelle. Je les établirai, je les multiplierai, j'établirai mon sanctuaire au milieu d'eux, à jamais. » On retrouve cela en grec, c'est exactement la même chose. Hein. Si vous prenez, encore une fois, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 26. Donc là, c'est après le prologue. Donc on cause avec Jésus en disant, non, avec Jean-Baptiste, pardon. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni un prophète ?» Et voilà ce que répond Jean le Baptiste. « Moi, je baptise dans l'eau, au milieu de vous, se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. » Et on pourrait parfaitement traduire « milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. » Celui que vous ne connaissez pas, il est le milieu de vous. Il est entre vous, celui qui est le point où tout se noue. Et la femme adultère, elle est placée avec Jésus au milieu. Et quand on prend les récits de la Passion, quand Jésus est crucifié, on le met en croix, et avec lui deux autres, un là et un là, et au milieu, Jésus. Et à la résurrection, Jésus vient, et il se tient au milieu, et il leur dit « paix à vous ». Il me semble que du coup, porter du fruit, c'est sans doute se tenir au milieu, là où il est. Et donc, dans nos relations, reconnaître qu'il est lui la source de toute vie et que c'est lui qui nous donne de porter du fruit. On va s'arrêter là.
Merci beaucoup, Sarah, pour ces propos.